FM.
Beurre FM.
Toujours plus de hits. Beurre FM. Beurre FM. Il est minuit. Beurre FM. La rediff. La rediff. La rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour à votre santé. Bon matin à tous, ravi de vous retrouver. Bon matin Karima.
Bon matin Philippe. Bon matin à nos auditrices et auditeurs.
Karima Chadi, bien installée sur son sedari, psychothérapeute, coach parental et familial, et praticienne en constellation familiale, et ça cartonne.
Oui.
Savoir dire non ce matin, et on le verra dans cette émission, il ne s'agit pas seulement de dire non, encore faut-il savoir dire oui et de façon claire.
Oui.
Je vais vous poser une question à vous qui nous écoutez ce matin. Vous est-il arrivé de dire oui alors que vous n'en aviez pas du tout envie?
Ça, c'est une bonne question.
C'est que Karima ne me dit jamais non.
Ouais.
Même si elle ne fait pas les choses, elle ne dit pas. Non, elle dit jamais non.
Alors là, on commence avec ça, Philippe.
Non, et je me demande si finalement c'est pas culturel de.
Si, il y a quelque chose de très culturel.
Parce que les Indonésiens, par exemple, ils disent jamais non.
Oui.
Mais ils font pas les choses, hein. Mais ils disent pas non.
Parce que le non, il peut paraître un peu brutal. Brutal, agressif, pas engageant. C'est comme si on posait en fait une barrière entre nous et les autres.
Ouais.
Et c'est pour ça que dans certaines cultures, c'est difficile de dire non et donc on le dit pas. Ou alors on va le dire d'une manière détournée et contournée, soit avec des jeux de mots, soit avec des phrases, des manas comme on dit en arabe, hein, des choses qui veulent dire. On veut dire quelque chose, mais je ne sais pas comment on peut les appeler, ces figures de style en français, je ne sais pas. Nana. C'est-à-dire dire quelque chose, alors quelque chose qu'on ne veut pas dire, je vais y arriver, qu'on ne veut pas dire, et de le dire le nom d'une manière indirecte.
Voilà,
je veux dire ça.
Et comprennent qui pourra.
Et comprennent qui pourra,
voilà.
Exactement.
Mais est-ce que finalement, alors attention, je mets des guillemets, hein.
Oui.
Le Inch'Allah, ça ne veut pas dire
oui,
non.
Oui, vous pouvez le. Oui. Bah, vous demandez aux enfants, hein. Vous demandez aux enfants quand ils disent maman, on peut aller au parc aujourd'hui, ou maman, papa, est-ce qu'on peut aller là? Les parents disent Inch'Allah, mais dans leur tête, c'est déjà un non. Et les enfants disent non, mais pas le non, pas le Inch'Allah qui veut dire non. Vous voyez, parce qu'en fait, le véritable de sens de Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, c'est-à-dire qu'on se remet entre les mains de Dieu. Mais parce qu'on a du mal à dire non et parce qu'on a peur aussi de blesser l'autre, parce qu'on a peur en fait d'être rejeté par l'autre. On va voir tout ce que
oui,
le nom peut signifier.
Tout ce que ce nom veut dire.
Veut dire. Mais c'est vrai, vous avez raison, Philippe. Dans certaines cultures, dans certains pays, on n'entend pas le nom. Et quand on l'entend, c'est waouh, ça peut être très brutal et très violent pour la personne qui le reçoit.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Alors, puisqu'on est en période de solde, hein, peut-être vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose qui ne vous convenait pas du tout, parce que la vendeuse vous a dit que ça vous allait bien,
oui,
et que vous n'avez pas osé dire non.
Exactement.
Parfois, ça peut arriver, hein. Vous avez accepté un travail supplémentaire alors que vous n'aviez pas le temps.
Oui.
Votre meilleure amie vous téléphone en pleurs, elle est de nouveau à découvert, et si elle ne trouve pas immédiatement de l'argent, eh bien, elle sera interdite bancaire. Et pourtant, oui, c'est pas la première fois qu'elle vous demande une aide financière.
Oui, oui.
Et elle ne peut demander ça qu'à vous.
Exactement. Et donc, la difficulté, donc, ça vient mobiliser le côté sauveur, un peu, le côté aidant, le côté sauveteur, comme on l'a dit, sauveur. Et donc, de pouvoir, de se dire, mais attends, la pauvre, elle a du mal quand même, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et le problème à côté de ça, c'est qu'on laisse pas les personnes prendre leurs responsabilités en face du non, parce qu'on nous a pas appris depuis tout petit à gérer le non. La plupart du temps, c'est quoi?
Enfin,
c'est
des... pourtant, les enfants ont quand même une phase où...
Oui, il y a la phase.
Il y a la phase du non, 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 non. Et les ados, pareil. Hein.
Oui, exactement. C'est des phases qui reviennent dans le développement de la personnalité, mais ça va dépendre de comment c'est accompagné, Philippe. Comment les parents accompagnent ce non? D'accord. Si ce non, il est brimé, il n'est pas accompagné comme étant un moyen d'affirmation, un moyen d'autonomie qui mène vers l'autonomie, vers la responsabilité, eh bien, on va utiliser des phrases ou des... comme on les appelle les drivers, hein, les messages contraignants. L'enfant va dire non, mais on va le forcer. On va dire, mais non, allez, fais plaisir. Et donc, l'enfant comprend que le non n'est pas audible pour le parent. Il ne l'entend pas, donc il va se plier. Pourquoi? Parce que l'enfant pourrait se dire, je ne peux être aimé de ma mère que si et seulement si je fais ce qu'elle me dit. Voyez? Et donc imaginez ça, c'est quand ils sont enfants, mais quand ils deviennent à l'âge adulte, on se retrouve à saboter des relations, on se retrouve à vivre, enfin, être dans le mal-être dans, au niveau du travail, avec ses collègues, tout ça, parce qu'on n'a pas réussi à dire non, ou à simplement dire, écoute, là, je peux pas, c'est pas possible pour moi, sans rentrer dans la justification, sans tomber dans la défensive, sans être dans le sarcasme, sans être dans, dans l'indifférence, parce qu'on nous a pas appris à dire non, et on n'a pas appris aux autres aussi à entendre le non. Donc il y a la question avec ça de quoi ? Des limites et la question du respect. Vous voyez, moi, je vous raconte, moi ben, vous l'avez dit, hein, que je vous entendais très rarement le nom de ma part.
Non. Enfin, je l'entends voilà. Maintenant, mais je me suis habituée. Parlez-vous le Karima Shadi.
Mais moi, je sais que dans mes relations amicales, comme vous le savez, Philippe, donc parfois, c'est difficile. Par exemple, dernièrement, avec une amie, on avait prévu quelque chose et j'avais du mal. Je dis, oh là là, comment je vais lui dire que c'est pas possible? J'ai un autre engagement qui s'est greffé dessus. Oh, mais mon Dieu, c'était l'usine à gaz. Et un truc avec, je vous dis même pas, l'état émotionnel dans lequel j'étais, je me sentais essorée dans ma poitrine et dans mon ventre. Et de dire, mais comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Les deux événements étaient engageants.
Ah oui, pour elle, au même niveau d'exigence.
Et là, j'ai dit mais et à un moment donné, donc j'avais d'un côté la culpabilité qui est là, qui rôde tout autour, et dire mais comment je vais faire. Je dis bon, mais écoute, l'authenticité, Karima, sois authentique, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, là, ce sera pas possible, je pourrais pas être là à tel événement, donc j'ai un autre événement qui voilà, avec ma mère, qui est.
Mais
voilà,
là, vous êtes déjà presque dans la justification.
Mais j'étais dans la justification. Après, l'autre, est-ce que l'autre l'entend? Ouais. Et à un moment donné, l'autre me dit, mais Karima, c'est important, moi je comptais et tout, oh là là, on va être déçu, on va être... Je lui dis, oui, j'entends, et moi-même, je suis la première déçue, mais j'ai pas le choix. Et la personne, quand elle m'a entendu dire ça, mon amie, quand elle m'a entendu, elle a dit, oh là là, pardonne-moi, excuse-moi, là je vais te faire culpabiliser, excuse-moi, c'est déjà pas facile pour toi. Donc quand on a quelqu'un en face qui est assez éveillé, assez ouvert et assez compris, dans une démarche de compréhension, eh bien elle va s'arrêter. Dès au moment où elle se rend compte que bah, qu'elle vient en rajouter et remuer le couteau dans la plaie, bien, elle va dire, ok, stop, oui, je comprends. Ça n'empêche pas la déception.
Oui, oui.
D'accord ? Mais voilà, il y a des fois, il y a des situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et sur lesquelles on n'a pas le pouvoir d'agir comme on voudrait l'agir. Voilà, je vais le dire comme ça.
Alors, beaucoup d'entre nous avons une réelle difficulté à dire non. Il nous est souvent pénible de dire non à ceux qui nous demandent des choses que nous ne voulons pas faire, de dire non aux obligations qui ne sont pas vraiment des obligations.
Bah oui,
d'accord. De dire non à l'autorité. Bon, ça peut s'expliquer.
Oui.
Quand je parle d'autorité, je parle de votre patron, par exemple.
Oui.
Ou de dire non à ceux que nous aimons quand ils abusent de notre affection et qui peuvent, dans ces cas-là, faire un peu de manipulation affective.
Absolument.
Les parents sont assez forts pour ça.
Oui, mais oui.
Et les enfants aussi.
Et les enfants aussi. Ouais. Vous savez, quand on est dans une relation, qu'elle soit relation amicale, relation amoureuse ou relation parentale filiale, ou même avec nos collègues, hein, ou qu'il y ait une hiérarchie dans cette relation, ben forcément, on mobilise quoi à ce moment-là ? La peur du rejet. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas correspondre à ce que l'autre attend, la peur de ne pas être assez pour l'autre, voyez ? Donc forcément, on va se retrouver à négocier avec soi-même et se dire, bon, mais c'est pas grave. Moi, il m'est arrivé quand j'étais déléguée de parents d'élèves et quand on préparait la kermesse, je devais être à plusieurs endroits en même temps. Alors, j'ai pas encore le don
d'ubiquité,
ouais. C'est clair, je ne l'ai pas encore et je pense pas que je l'aurai un jour, d'accord ? Mais je me retrouvais à être dans des situations entre aller, parce que les parents me faisaient confiance et l'école, pour acheter la viande halal, et pas ramener n'importe quoi parce qu'on faisait un barbecue. Donc les merguez, c'était moi qui les ramenais. Il fallait que j'aille chez le boucher. Ensuite, les gâteaux, il fallait que je fasse la liste des personnes. Ensuite, il fallait que je sois au stand de maquillage parce qu'ils adoraient. Moi, j'adorais faire ça. Le maquillage, le chamboule, tout. Je dis, oui, mais je pourrais pas être partout, quoi. Voyez, et en même temps, ben, que mes enfants profitent de la kermesse aussi.
C'est sûr que merguez et maquillage, il faut choisir.
Voilà.
Ça, il y a un choix à faire.
Donc vous imaginez.
Moi, j'aurais pris merguez, mais bon, après maintenant.
Après, j'ai délégué parce que, mais une fois que j'étais complètement dépassée en charge mentale, parce que de se dire oh là là, et en plus avec un petit chouïa de perfectionnisme et un saupoudrage de perfectionnisme, eh bien à un moment donné, de se dire non, je ne peux pas tout faire, ce n'est pas possible.
Mais il y a cette
donc
phrase...
à un moment donné, il faut bien dire non, quoi.
Ouais, non, mais il y a une phrase que peut-être vous avez entendu ou que vous vous êtes entendu dire, hein, vous qui nous écoutez ce matin, je n'ai pas envie, mais je ne peux pas dire non.
Oui. parce que justement on s'enferme. Philippe, je vous ai coupé, mais allez-y.
Non, non, je ne peux pas dire non. Donc oui. ça veut dire quoi, je ne peux pas dire
je
non.
Ne peux pas parce qu'il y a des considérations, Philippe. Il y a des, dans notre tête, là, comme ça, et dans notre cœur, au niveau donc cognitif, donc des croyances, des convictions, et au niveau émotionnel, des états émotionnels, parce qu'on ne veut pas ressentir le rejet ou la non-reconnaissance de la personne. Quand vous acceptez de faire ce qu'elle demande, elle veut dire oh t'es adorable, t'es gentil, oh là là tu m'as sauvé, oh là là tu m'as fait, donc il y a un bénéfice à entendre ça. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir valorisé. Mais le problème, c'est que quand je dis oui à l'autre, à qui je dis non? Je dis non à moi, d'accord? Je me dis non à moi. Donc la personne, elle est là, elle est en train de combler ou en train de nourrir des besoins psychologiques où elle va se sentir valorisée, où elle va avoir la reconnaissance des autres, mais à quel prix? À quel prix? D'accord? C'est pour ça que la question de l'intention, moi je le dis souvent quand on travaille sur les messages contraignants de faire plaisir, de sois forte, dépêche-toi, fais des efforts, vous savez, qu'on retrouve dans l'AT, dans l'analyse transactionnelle, de dire mais est-ce que toi ça te fait plaisir? Est-ce que tu as envie de le faire? Parce que si tu vas le faire et qu'après tu vas, on va dire, on va faire payer la personne et dire avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein, c'est comme ça que tu me le rends. Je me suis privée de ça et de ça et de ça et j'ai pas été à mon truc, et j'ai pas fait mon sport et j'ai tout ça pour pouvoir venir te récupérer à tel endroit et nanani et nanana, et on fait payer à l'autre alors que c'était simplement notre incapacité à dire non. Et vous avez dit je ne peux pas dire non, c'est une question de pouvoir. Est-ce que je prends mon pouvoir en acceptant, en osant déplaire à l'autre en disant non? Si l'autre ne sait pas écouter, ne sait pas entendre le non, est-ce que je vais oser déplaire? Elle est là, moi, pour moi, elle est là la question. Pourquoi? Parce qu'on est là, eh ben, je veux mon petit sucre là, je veux ma petite friandise de reconnaissance, de ouais, good girl, c'est bien, t'es une brave fille, voilà. Donc tu es bien, tout le monde te regarde. Ah oui, elle rend tout le temps service. Elle est.
Oui, c'est ça. On peut compter sur elle.
Le deal, il est là, Philippe. Mais là, dans ce cas-là, quand je dis oui à l'autre, je me dis non à moi-même et se poser la question de l'intentionnalité. Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire cet effort ou pas? Et ça ne veut pas dire, ça ne fait pas de nous des égoïstes ou des égocentriques. Ça fait simplement de nous des gens qui sont à l'écoute de leurs besoins, des gens adultes et responsables, tout simplement.
Savoir dire non, on en parle ce matin avec Karima Chadi jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la redille. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, comment dire non ce matin? Comment dire non sans blesser les autres? Comment dire non sans s'en vouloir à soi-même? C'est un vrai sujet. On disait hors antenne que c'est dans un contexte professionnel, par exemple, c'est parfois compliqué de dire non. Surtout si c'est un supérieur hiérarchique qui vous le demande.
Mais oui, parce qu'il y a le rapport, il y a un rapport d'autorité. Tout à l'heure, on le disait en début d'émission quand on parlait de l'autorité. Il y a un rapport hiérarchique de si je dis non, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que comment va le prendre le patron? Est-ce que ou les collègues, ou comment que, par exemple, ne serait-ce que le nom d'aller, on va déjeuner ensemble. Moi, je sais qu'avec mon fils, quand il était en stage et tout ça, il me dit maman, des fois, j'avais envie de me retrouver dans ma bulle et de pas manger avec les autres. Et ben dire non, j'ai pas envie de manger avec eux. J'ai envie d'avoir mon sas de décompression. Ouais. Tu vois? Et donc ça c'est difficile. Quand on le dit comme ça, ça semble simple. Mais en fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en conflit, en fait. Et au niveau de nos besoins psychologiques, il y a des freins psychologiques, des besoins psychologiques, des besoins sociaux, des besoins émotionnels. Et si on n'arrive pas à les nommer et à les reconnaître, ça va être difficile et on ne saura pas pourquoi on n'arrive pas à dire non. Donc la première étape, vous avez dit comment on fait pour dire non. Première étape, c'est de s'écouter d'abord. C'est quoi le brouhaha intérieur, là? Qu'est-ce qu'il dit, ce brouhaha intérieur? Que ce soit au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de votre tête, des schémas que j'ai construits autour de ce nom. Donc, est-ce que c'est un besoin d'être aimé, d'être accepté, qui me fait dire oui alors que j'ai envie de dire non? Est-ce que c'est ma peur du conflit et avec ou pas, ou avec ou sans de la culpabilité? Est-ce que c'est des croyances qui me viennent de l'enfance et que j'ai toujours vu mes parents agir de cette manière et donc je reproduis exactement la même chose? J'ai jamais entendu mon père dire non, et ou ma mère dire non, et donc du coup je suis dans le mimétisme et dans la reproduction. Donc ça, c'est important de déjà se poser pour dire, ok, quel est le besoin psychologique derrière ? Un besoin de reconnaissance ? La peur du conflit ? Le rejet du conflit ? Un besoin d'appartenance ? Un besoin de se sentir utile ?
Mais ça peut être une valeur, par exemple, puisqu'on a fait une émission sur les valeurs.
Oui.
Vouloir être utile.
Oui,
vouloir se rendre et disponible pour les autres, ça peut être une des valeurs qu'on a.
Bien sûr. Et cette valeur, elle doit être guidée par. Donc, c'est une de haute valeur. Donc, s'il y a derrière ça, il y a des vertus. La vertu de la gentillesse, la vertu de la bonté, la vertu de rendre service et d'humanité, en fait, hein,
oui,
finalement.
Il ne faut pas que ça se transforme en je suis une bonne poire.
Je suis une bonne poire et je suis un serviteur ou une servante.
Oui, c'est ça.
Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on devient esclave. Il faut se poser la source de ce « je veux me sentir utile », d'où elle vient. D'où ce « je veux me sentir utile », d'où il émerge. C'est ça, la source. Est-ce que c'est névrotique ? C'est parce que je vais avoir de la place avec les autres et du coup, je vais être apprécié, du coup, je vais être aimé, du coup, mon besoin psychologique est nourri et donc je vais être dans ma névrose. Ou bien alors, je vais le faire d'une manière complètement désintéressée. D'accord ? Et de la source de mon âme. J'ai envie et je n'attends rien en retour. Ni reconnaissance, ni un merci, ni quoi que ce soit, même si ça fait plaisir. D'accord ?
Moi, j'y crois pas beaucoup à ça.
Moi, j'y crois, Philippe.
Je crois beaucoup aux bénéfices secondaires. Hein. Je crois qu'on fait rarement les choses uniquement pour les autres.
Oui, je suis d'accord. Il y a toujours un bénéfice.
On se sert aussi au passage.
Je suis d'accord, Philippe. Maintenant, qu'est-ce que la différence dans cette intention positive, comme on l'appelle aussi dans d'autres approches, ou ce bénéfice secondaire, est-ce que j'en suis conscient ? Quand j'en suis conscient, c'est pas pareil, c'est un choix conscient. Quand je n'en suis pas conscient, là, je le subis. Je fais ça parce que ça. Je vais servir le café à tout le monde alors que j'en ai rien à faire. J'ai pas envie ce matin, mais je vais le faire parce que pour rentrer dans les bonnes grâces.
Et puis parce que je l'ai toujours fait et c'est comme ça que les gens m'aiment.
Oui, exactement.
Si je le fais pas, ils vont se demander ce qui m'arrive.
Ouais, exactement. Ouais. Mais donc ça veut dire quoi ? Que là, on se met dans une espèce de quelque chose de contraignant qui nous met la pression et donc du coup, il y a des jours où on n'a pas envie, des jours où j'ai pas envie de dire bonjour, des jours où j'ai pas envie de sourire. Voyez ? Moi, il y a des jours, j'ai pas envie de sourire. Des jours, j'ai pas envie d'écouter. Moi, mon métier, c'est l'écoute. J'écoute les gens. Et il y a des jours, j'ai pas envie d'écouter.
Vous mettez fermé pour travaux.
Voilà, fermé pour travaux,
voilà,
par exemple.
Fermé pour travaux. Karima voilà. Chadi, elle est fermée pour
elle
travaux.
Elle est fermée pour travaux. Mais des fois, les gens ne le comprennent pas. Donc, du coup, je vais prendre sur moi. Voyez.
Et donc, vous allez dire
et
oui.
Et donc, je vais dire oui, mais parce que pourquoi ? Parce que je vais faire passer le bien-être de l'autre avant le mien. Mais c'est là où je fais du bullshit, Philippe. D'accord ? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en attitude d'écoute et de présence. Ouais. Je veux juste virer, vite, aller que ça finisse, quoi. Et le problème, c'est que l'autre va le sentir. Et même moi, je ne vais pas être bien. Et ce n'est pas se respecter soi-même ou respecter l'autre. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, que j'ai posée en supervision d'analyse de pratique avec mon superviseur à l'époque. J'étais à un mariage. Et dans ce mariage, dont on attendait, vous savez, la tradition marocaine, la mariée va sortir toute apprêtée, habillée, voilà, avec Negafa et compagnie, d'accord ? Donc bien habillée et tout. Et d'où on attend la mariée, on est tous là en train d'applaudir, les youyou, les machins. Je portais une tekcheta, donc la robe traditionnelle marocaine. Et il y a une dame qui vient et elle me dit « Karima, c'est vous Karima ?» Je lui dis « Ouais », elle me dit « Vous êtes bien psychothérapeute ?» Oui, moi je suis en train de chanter,
C'est pas le moment.
Et elle me dit, oui, je voulais vous demander, voilà, en fait, je suis en dépression depuis. Et nous, on attend la mariée qui va arriver incessamment sous peu. Et je la regarde et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et elle me pose des questions sur une molécule de médicament que lui a prescrit son psychiatre. D'accord ? Alors moi, je suis pas psychiatre, je prescris pas de médicaments, je suis pas médecin. D'accord ? Moi, je travaille avec de la sophrologie, de l'hypnose. Voilà. Et elle me dit, voilà, est-ce que tu, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses ? Et je l'ai regardée, je lui dis, excuse-moi. C'est pas le lieu là. Elle me dit non mais vite fait. Je lui dis non, pas vite.
Et là, c'est pas vite fait, non.
Et là j'étais fière de moi, mais j'étais très mal. Pourquoi je l'ai posé en supervision d'analyse de pratique ? Parce qu'après j'ai culpabilisé. J'ai vraiment culpabilisé parce que moi je me sentais pas bien. J'avais l'impression de l'avoir rabroué, ça se dit, de l'avoir jeté.
C'est pas une mamounade, vous pouvez y aller.
Voilà, je peux y aller, d'accord. Et j'étais pas bien. Et quand j'ai posé ça en analyse de pratique, donc mon superviseur m'a dit tu as bien fait. Et il me dit la prochaine fois tu peux lui dire ce n'est pas te respecter, respecter ta question. Que de te répondre entre deux portes. On ne fait pas la thérapie entre deux portes. On fait pas la. Et j'ai trouvé. Et du coup, je la garde.
C'est une belle réponse.
C'est une très belle réponse. Et c'est me respecter moi-même et respecter l'autre. voyez. Et donc combien de fois des choses comme ça peuvent nous arriver, ou même quand on est avec nos amis, hein, je dis bah tu veux que j'ai la casquette amie là, ou tu veux que je mette ma casquette thérapeute pour répondre à tes questions. Et beaucoup mes amis me disent ah, on a de la chance de t'avoir, on est amis avec une thérapeute. Je dis oui, mais là je vais être l'ami normal comme tout le monde et pas à répondre à vos questions ou à votre mal-être, quoi. Vous voyez, donc dire non, c'est pas ça, parce que alors, ça vient mobiliser.
Oui. Ça m'amène à la question, parce que là ce qu'a fait votre superviseur, c'est super intelligent.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait des moyens détournés de dire non sans dire non?
Oui, justement, ça c'en est un. Ça c'en est un, de lui dire, écoute, est-ce que c'est une vraie question? C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser la reformulation. Et on va amener la personne en fait, on va faire l'effet miroir en fait, le reflet, en lui renvoyant sa question et pour lui montrer est-ce que c'est l'endroit approprié pour poser cette question. La mariée va arriver, je reprends le contexte du mariage, va arriver, on est tous là apprêtés à faire les you-you et compagnie, hein. Donc on est dans une ambiance de fête. J'ai pas envie de parler de la molécule de son antidépresseur, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est une manière détournée de dire, et on peut le faire. Par exemple, de dire, oui, je comprends que tu aies besoin de moi, et pour le moment, ce n'est pas possible pour moi. Et je ne vais pas plus ni dans la justification, ni sur la défensive. Et si la personne dit, oui, mais quand même, regarde, non, mais c'est pas compliqué, tu peux faire ça en 5 minutes. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, et je te le répète, ce n'est pas possible pour moi. Vous voyez ? Parce que c'est vrai qu'entendre un non comme ça, c'est comme si on se prend une gifle.
Enfin, en fait, c'est le mot qui est violent.
C'est le mot qui est violent, oui, enfin.
Ou qu'il est devenu.
Et il est devenu
qui est devenu violent.
Mais... Vous savez pourquoi? Moi, j'ai une hypothèse un peu aussi là-dessus, parce qu'on est aussi dans une société du tout de suite, et oui. Il y a un truc qui me plaît pas, je scroll, je zappe, je change, je change de station, je change de, vous voyez, non, ça m'intéresse pas d'être là. On est vraiment, et donc, du coup, le fait on nous a pas appris à gérer la frustration. Et un enfant, quand on lui a pas appris à gérer la frustration du non, quand on lui dit non, c'est non. Non, mais moi je veux sortir, je veux aller voir mes copains, je veux aller jouer au ballon. J'ai bien entendu que tu as envie d'aller jouer au ballon, et c'est non. Et ce sera toujours non dans un quart d'heure. Et ce sera toujours non dans une demi-heure. Et je continue à entendre que tu n'es pas... Et tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit. Et on le laisse pleurer. Et là, il va savoir gérer. Combien je reçois d'adultes qui n'ont pas su, on ne leur a pas donné les clés. Comment je fais avec cette frustration? J'en fais quoi? Elle est là, ça monte là dans la gorge et ça redescend, ça me serre, ça me met la tête à l'envers. On l'a pas appris. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, et même les adultes le font? Puisque ça me plaît pas, je vais aller trouver une activité compensatoire. Mmh. Ça va être quoi? On devient une acheteuse compulsive. On devient une addictive sur la nourriture. On commence à narcotiser avec des substances. On commence. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on n'a pas développé ses compétences psychosociales chez l'enfant. Le fait de dire non et entendre le non et à gérer ses émotions. Et c'est pas parce que je te dis non que je ne t'aime pas. C'est pas parce que je te dis non que ça veut dire qu'il n'y a plus de relation entre nous, qu'il y a une rupture. Non, pas du tout, au contraire. Vous voyez ? Et du coup, on crée un cadre et une sécurité. Alors, et souvent, on le voit dans les relations amoureuses aussi.
Il y a une phrase qui peut être très utile parfois, c'est « je vais réfléchir ».
Oui, alors celle-là, la technique que j'ai donnée avant de répéter plusieurs fois, on l'appelle la technique du disque rayé, vous l'avez compris.
Oui.
Et il y a la technique.
Alors le disque rayé, oui.
Voilà, ça, on l'appelle comme ça.
Pour ceux qui ont connu les disques vinyles, quand ils étaient rayés, il y avait un espèce de gros cratch et puis ça repassait toujours au même endroit, en fait.
Exactement. Et même avec les CD, hein. Pas qu'avec les vinyles, hein, même
dit,
avec les CD.
La technique du disque rayé, il y en a qui comprennent toujours pas.
Hein. Non. Parce qu'ils l'entendent pas.
Oui, parce qu'ils l'entendent
c'est
pas.
C'est inaudible pour eux.
Ouais.
Et tant qu'il n'y a pas un petit début d'un petit choui, un petit début de oui, non, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, c'est votre question.
Donc, je vais réfléchir.
Oui, je vais réfléchir. Pour se donner du temps, et avec la technique de je vais réfléchir, ce qui est aidant aussi, c'est de se dire j'ai le temps pour moi. D'accord ? Et je ne suis pas obligée de répondre tout de suite, d'amener l'immédiateté de la réponse. D'accord ? Et de préparer aussi ses réponses. Préparez vos réponses. Alors moi, c'est ce que je fais avec mes enfants quand je les coach des fois. Donc là, il y a des... D'ailleurs, félicitations à tous les bacheliers, hein, qui ont réussi le bac. Moi, j'ai mes neveux qui ont eu le bac, Rachel et Ishaq, qui ont eu le bac avec mention. Donc on est tout contents. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis partie sur le bac.
Non, vous avez dit que vous, avec vos enfants, vous les coachiez.
Je les coach exactement à préparer leurs réponses et à avoir plusieurs scénarios. D'accord ? Si la personne me dit ça, ce que je peux répondre. D'accord ? Si elle me dit autre chose, je peux répondre. Si elle me dit oui, parce que généralement, quand la personne en face ne veut pas entendre le non, elle va vous faire plein de propositions. Et tu pourrais faire comme si, si tu faisais comme si, que tu faisais. Alors que vous, vous avez simplement, vous n'avez pas envie. Et comme vous n'avez pas envie de lui dire, je n'ai pas envie de voir ta tête, je n'ai pas envie de sortir ce soir avec toi, je n'ai pas envie de passer du temps avec toi, mais on va pas lui dire comme ça, bruit de décoffrage. On va des fois choisir des manières détournées. Mais comme l'autre persiste et insiste, à un moment donné, ça va. Non, mais t'as pas compris que c'est pas. J'ai pas envie de voir du monde, quoi. Et j'ai pas envie d'écouter tes histoires.
Ça, faut y aller.
Hein. Ben ça, il faut y aller.
Ça, faut l'envoyer.
Mais parce que, en
est-ce
même
que
temps,
demandé,
l'autre est responsable
est-ce
aussi,
que
Philippe.
Est-ce que t'as demandé à Leïla si elle était disponible?
Si j'ai demandé à Leïla si elle était disponible?
Bah oui.
À ma sœur?
Ben, par exemple, on peut dire, je sais pas, on
ah,
dit.
Ah, pardon,
ben, est-ce que t'as posé, d'abord, je me permettrai pas de vous tutoyer, Karima.
Oui,
avec tout le respect que je vous dois. mais est-ce que t'as demandé à Leïla? Ou à quelqu'un d'autre?
Ou à quelqu'un d'autre,
ou à Solal,
oui. Et ça aide bien. Oui. Ça aide bien de dire est-ce que tu as demandé. C'est-à-dire qu'on va amener le focus sur une autre personne. Et aller chercher, en fait, on appelle ça chercher la ressource à l'extérieur. D'accord? On va aller chercher la ressource à l'extérieur et dire est-ce que tu as demandé à Leïla? Est-ce que tu as demandé à Solal? Est-ce que tu as demandé à Fodil? Est-ce que tu as demandé à Philippe? Et il en pense quoi, Philippe? Qu'est-ce qu'il se dit à propos de
il
ça?
Il est fermé pour travaux.
Voilà, et donc Philippe est fermé pour travaux. Donc il a une
pancarte. Il y a beaucoup de travaux.
Non, c'est pas vrai. Il dit ça comme ça, mais
non,
c'est
non,
pas
non, mais
vrai.
C'est vrai que moi j'ai fermé pour travaux aussi.
Oui.
C'est important d'apprendre à dire non.
Mais parce que c'est une question de respect, Philippe, de respect de soi. De respect de soi.
Non, mais
quand on est
parce
fatigué.
Qu'on s'en veut. Si on dit oui et qu'on pense non.
On va s'en vouloir
après,
derrière.
Après, on s'en veut d'avoir dit oui, d'avoir été trop faible, de ne pas avoir osé
exactement.
Dire ce qu'on avait sur le cœur. Et au final, on se retrouve dans une situation bah, qu'on a créée.
Exactement, parce qu'il fallait simplement dire un mot avec trois lettres.
On peut en vouloir à personne.
Exactement, mais qu'à soi-même, justement, parce qu'on est en colère contre soi-même.
Savoir donc, dire non, Karima.
Oui.
Le temps d'une page de publicité. Et vous nous direz oui tout à l'heure.
D'accord. Un grand oui.
Oui.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Savoir dire non. Voilà, c'est notre sujet ce matin, on en parle avec Karim Machadi. C'est pas toujours facile de dire non, parce qu'après il faut assumer les conséquences de ce qu'on a dit.
Oui.
Mais surtout qu'il faut rester ferme sur ses positions.
Oui.
C'est pas le moment, oui. La nuit passée, de dire bon allez, oui.
Oui, c'est parce qu'il faut rester ancré. C'est-à-dire le non, il est motivé par quoi ? D'accord ? Et quand je dis non, est-ce que je suis en train de poser aussi des limites ? Je suis en train de démontrer le respect que j'ai pour moi-même, le respect que j'ai aussi pour mon travail. Vous voyez ? Donc c'est vraiment se poser la question à ce moment-là. Moi je le fais souvent, quand je dis non, quand je dis oui à l'autre, est-ce que je suis en train de me dire oui à moi-même aussi ? Est-ce que j'ai réellement envie ou est-ce que je suis en train de me dire non ? Et du coup, que je m'enferme. Et du coup, avec cette culpabilité, donc c'est pour ça que c'est important de rester ancré et aligné avec. Vous avez parlé de valeurs tout à l'heure, Philippe, les valeurs qui sont derrière de l'appartenance, de l'utilité, de la reconnaissance, de la gentillesse, de la bonté,
de la serviabilité.
Voilà. Oui, mais ce sont des valeurs, bien sûr. Mais maintenant, ces valeurs, si elles sont servies par notre névrose, c'est parce que il y a la peur. On est guidé par la peur du conflit, la peur de se sentir coupable, la peur de se sentir rejeté, la peur de pas être assez pour les autres. Ben là, non, ça n'a rien à voir avec les valeurs, là. Ça n'a strictement rien à voir avec les valeurs. Donc, on se pose, est-ce que je suis bien centré? Est-ce que je suis bien aligné? Est-ce que je suis bien ancré quand je dis ce non? Et l'autre, il peut danser la danse du ventre devant moi. Non, c'est non, ça restera un non. Et là, c'est une frontière. Vous voyez, ce n'est plus une limite. Parce qu'à partir du moment... Vous savez faire la différence entre une frontière et une limite?
Non.
Une limite, c'est un obstacle que l'on va poser, c'est une barrière que l'on va mettre. D'accord ? Soit on se limite soi-même. Et donc, on va mettre une barrière devant nous. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas aller de l'autre côté ou de l'autre côté de la barrière. Et donc, on va poser une limite. C'est aussi un cadre dans lequel je suis à l'aise. Une frontière... C'est-à-dire que quand il y a une frontière, c'est-à-dire que là, on a dépassé au niveau des frontières de l'identité de soi, c'est-à-dire que je ne suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre.
Ouais.
quand vous quittez les frontières de la France et que vous vous retrouvez en Espagne, bon, on parle une autre langue. Bon, c'est la même monnaie. On parle une autre langue. La culture, elle est différente. C'est autre chose. Donc, une frontière. Et c'est pour ça que quand, vraiment, moi, quand j'accompagne les gens à ce sujet-là, je leur dis, mais elle est où la frontière? Pour arriver à la frontière, d'abord, il y a la limite qui va précéder la frontière. Mais quand on dépasse cette frontière, ça y est, on ne parle plus la même langue. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je suis en train d'expliquer là.
Ouais.
Oui. Donc, c'est important de pouvoir se dire quelles sont les limites que je compose,
ouais.
Les limites, et qu'est-ce qui me met mal à l'aise que je n'arrive pas à dire non. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Pourquoi j'arrive pas à dire non? Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise.
Mais est-ce qu'il y a un profil type des gens qui n'arrivent pas à dire non?
Oui, il peut y avoir des profils types. Par exemple, en Ennéagramme, on a le profil 2, par exemple, ou le profil aussi empathique.
Alors c'est quoi? C'est les rêveurs,
Non, le rêveur, il peut dire... il dit non, le rêveur. En Ennéagramme, le 2, c'est l'altruiste. On dit l'altruiste ou l'indispensable.
Ouais.
Lui, non, parce que justement, il est en quête d'amour. Il est en quête d'amour et il se sent aimé, il se sent valorisé que quand il dit oui à tout et qu'il est là. Et après, il va manipuler avec ça, après. Hein. Par exemple, avec une autre approche qui vient de l'analyse transactionnelle, qui est la process communication. Je ne sais pas s'il l'appelle toujours comme ça, d'ailleurs.
Nous, on l'a connu la PCM, sous la process...
PCM, la process com management. Et maintenant, ils ont changé certains noms.
Ouais.
Toby Keller,
ouais.
Ils ont changé certains profils, mais ça reste les mêmes. L'empathique, par exemple. L'empathique, il a un peu du mal à dire non. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver la relation. Si je dis non à l'autre, la relation peut se briser. Et donc, dans ses besoins psychologiques, il y a un besoin de se sentir utile et de faire plaisir. Il est beaucoup dans le driver fait plaisir. Mmh. Parce qu'il a beaucoup entendu, il a intégré que je ne suis aimée que quand je fais plaisir. Donc, faire plaisir, c'est dire oui. Même quand j'ai envie de dire non. Et donc après, il reste tout seul avec ces états d'âme, hein, d'accord. On peut se poser aussi la question de quand je dis oui, est-ce que je respecte mon énergie? Est-ce que je respecte mes propres besoins? Si je respecte mon énergie, l'énergie que j'ai mis dedans,
vous voyez,
de toute façon, le corps va parler, le corps, tout le langage non-verbal va parler, où on va avoir de l'anxiété, où on va avoir des maux de tête, une fatigue, de la charge mentale, tout ça parce qu'on n'a pas réussi à dire non.
Parce que au final, c'est ça qui va se passer.
Mais c'est ça, justement. Mal au ventre, dès qu'on va voir les autres. Et moi, je me rappelle quand j'allais aux réunions à l'époque, j'étais en pleine reprise de mes études quand j'assistais aux réunions de mes enfants quand ils étaient petits et qu'on faisait la répartition des tâches. Et il y avait pas beaucoup de parents qui s'investissaient. Moi, j'étais à fond les ballons et je me rappelle, j'étais là, purée, j'espère qu'ils vont pas. Alors, je gardais la tête baissée, genre je me fais pas voir, genre on me voit pas, vous voyez. Donc, je croise pas le regard des autres. Il dit, Madame Chadi, bah où vous, ça vous dit? Ou alors, le compte rendu. Ah, mais Madame Chadibaou, elle est en train d'écrire. Moi, je sortais tout le temps mon carnet.
C'est le pire quand il faut faire le compte rendu.
Je me tapais tous les comptes rendus. Philippe. Tous les comptes rendus de réunion. Et en plus, ils disaient, mais en plus, c'est bien. Franchement, comment vous l'avez fait? J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai fait un PowerPoint, de la réunion, des résolutions avec lesquelles on est sorti, du prochain ordre du jour de la prochaine réunion.
Alors après, s'il y a des techniques, il y a des gens qui vous font des comptes rendus en 3 minutes parce que de toute façon, vous savez ce qu'il y a à mettre dedans,
Oui, oui.
Mais ceux qui s'appliquent vraiment, qui passent une demi-journée à faire un compte rendu.
Non, mais maintenant il y a ChatGPT, donc maintenant on se prend plus la tête. On va lui dire voilà, il y a une réunion, il y a eu ça. Voilà, tu me prépares un truc, un déroulé ou
non,
un.
Non, vous feriez pas ça. Vous.
Voilà, non.
Vous feriez pas
non.
ça. Vous appelleriez pas ChatGPT.
Non, je me fais. Non, pour le compte rendu, bien sûr que non, mais pour me faire aider parfois par ChatGPT quand je suis un petit peu bloquée, des fois oui, je peux lui demander. Vous savez, j'ai des patients maintenant qui viennent et qui ont consulté ChatGPT.
Non, parce que maintenant, c'est les deux tiers des patients qui ont consulté.
Ils viennent, ils me disent voilà, en fait, et j'ai dit mais comment vous êtes arrivé à ce. Vous êtes voir un psychiatre pour avoir le. Non, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit d'accord. J'ai dit vous savez quoi, restez avec lui. Non. J'ai dit non, puisque c'est. Chez moi, c'est dans la relation que je travaille. Je travaille pas. ChatGPT, il a ses données. C'est un vrai sujet.
De savoir en quoi ça va modifier le rapport entre les soignants et les patients.
Oui.
Bon, enfin, si les soignants étaient plus disponible, je pense que les patients consulteraient peut-être moi aussi ChatGPT.
Non, mais en fait, Philippe, il y a ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi, les patients veulent que ça aille vite. Et parfois, sur certaines choses, sur certaines thématiques, il y a besoin. Le temps est un facteur essentiel. Le temps de verbalisation est un facteur essentiel. Parce que les gens. nouvelle recette toute prête. Voyez, par exemple, avec une de mes patientes, je travaille en EFT, par exemple, et elle me dit, ah, mais non, mais c'est venu, ça a remué. Je dis, mais c'est le but, de faire remonter tout à la surface, c'est pas de garder tout comme une eau vaseuse. Vous savez, l'eau, quand elle est, la vase est en bas, et en fait, on a l'impression, et puis, on va tout faire remonter pour clarifier et pour de décharger. Mais si on le garde et qu'on dit, ah, ben c'est bon, l'eau est claire, là, c'est sympa, mais quand on va dans les profondeurs, c'est terrible. Vous voyez ?
Alors pour en venir au sujet de l'émission, la personne qui vous demande un service ou de l'aide, elle est parfois réellement en difficulté. Donc ça peut vraiment aussi poser un problème, parce qu'en disant oui, mais elle est quand même, elle en a besoin.
Oui, elle en a besoin. Bien sûr qu'elle sait pas, on n'est pas en train de dire que la personne qui vient demander quelque chose, elle est en train de jouer ou en train de vous manipuler. Mmh. Ça peut arriver, oui. Mais la plupart du temps, quand les gens demandent...
Il y a une vraie demande.
Il y a une vraie demande.
Il y a une vraie demande. Et c'est ça, c'est dire non à quelque chose en disant, bah, tu vois, lui, il est en dessous de moi, ou il a vraiment besoin de moi, et je ne suis pas présent.
Oui, je suis pas... Alors, dans ce cas-là, il faut questionner aussi le lien qu'on a avec cette personne. Est-ce qu'elle peut entendre? Peut-être que vous êtes dans une phase où, pour le moment, ce n'est pas évident pour vous de pouvoir aider, ou de pouvoir aider à la hauteur que l'autre voudrait, que l'autre attend. Et de le simplement, vous savez, il faut simplement le verbaliser et le dire.
Oui, de toute façon, on ne peut pas toujours être là et on n'est pas obligé d'aider les gens.
On n'est pas toujours obligé d'aider les gens. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai eu cette semaine. J'ai eu une situation avec un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, il y a un ami, j'ai un couple d'amis qui ont tel problème. Est-ce que tu peux les prendre, s'il te plaît? C'est moi qui vais payer les... J'ai dit, stop, tu t'arrêtes tout de suite. Je lui ai dit, tu sais que le fait qu'ils prennent en charge leur thérapie fait partie de la thérapie. Je lui dis, là, tu es en train de vouloir sauver.
C'est un sauveur.
C'est un sauveur. Ouais. Là, on est à fond là-dedans. Et donc, il me dit, ah oui, mais moi, je ne voyais pas le truc, mais il faut sauver le couple. Je lui dis, oui, mais est-ce qu'eux, ils ont envie de sauver leur couple? Est-ce qu'eux, ils prennent responsabilité de ce qui se passe? Pourquoi? Parce que face à un sauveur, on a quoi? On a des victimes. Qu'est-ce qu'on fait pour responsabiliser la victime et pour la rendre actrice de son changement? Pour qu'elle entende le nom de dire, oui, là, tu es vraiment dans une grosse galère. Ok, là, je peux rien pour toi. Mais je suis là. Je suis là pour toi, c'est-à-dire que je vais te soutenir. Je suis dans une écoute attentive. Je suis dans, on va chercher les ressources à l'extérieur, mais c'est pas forcément moi qui vais te les donner. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Et ça, il faut.
Mais alors, au final, vous les avez vus ou pas?
Non, je les ai pas vus parce que j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, écoute, dis-leur, donne-leur mes coordonnées.
Et qui m'appelle.
Ils m'ont pas appelé, ils ont dit non, ils sont pas prêts. J'ai dit ok. Voilà, tout simplement.
C'est QFD.
Ouais. Il m'a dit bah ouais, et puis il m'a dit bah t'avais raison. Ouais, t'as raison. Je lui ai dit oui, regarde, j'ai dit à qui, moi il y a une question que je pose tout le temps. À qui appartient le problème? C'est le tien que ce couple il aille pas bien? Si c'est le tien, c'est toi qui dois aller consulter. Si c'est pas le tien, restitue. C'est leur problème, c'est à eux de prendre responsabilité, de vouloir le régler. Et de le régler avec des professionnels. Vous voyez? Et ça, le problème, la plupart du temps, on fait n'importe quoi.
Quel est le risque de ne jamais dire non?
Ah ben, le risque, c'est de tomber dans le mal-être, de devenir complètement dépressif, complètement, parce qu'on va se contrarier tout le temps. On va tout le temps se contrarier, et donc on peut être vraiment tombé dans le mal-être et voire dans la dépression. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et la plupart du temps, les gens qui viennent me disent « Oui, j'ai laissé tellement de choses. Je me suis oubliée. » Vous imaginez ? Je me suis oubliée, je suis restée à faire plaisir à celui-là, à faire ça. Mais moi, en fait, est-ce que moi, j'en avais envie ? Est-ce que moi, j'ai choisi de faire ça ? Et ça, c'est la question qu'on pose. Est-ce que toi, tu choisis de le faire ? Et c'est là où tu es dans ton pouvoir. Si tu choisis de le faire, j'ai le pouvoir de dire oui, et le pouvoir de dire non. Mais si je ne le choisis pas, c'est que je suis dans la contrainte, c'est que je suis dans la pression, c'est que je suis dans l'obligation.
Mais regardez, quand on reparle des parents, donc sa mère ou son père, impossible de dire non.
Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser la plupart du temps le lien de la piété filiale et de dire est-ce que je suis une bonne fille? Vous vous rappelez quand on avait fait l'émission sur la bonne fille de ses parents, est-ce que je suis une bonne fille ou pas? Et souvent c'est vrai parce que on peut développer aussi des relations toxiques, on en a fait déjà fait plusieurs émissions.
Mais la question se pose pas, ses parents ne disent pas non.
C'est pas ça, Philippe. Non. C'est pas qu'on ne dit pas non. Les parents, ils doivent aussi entendre non. Par exemple, moi je le rencontre souvent dans le style éducatif. quand le parent il dit oui mais nous de notre temps on n'éduquait pas comme ça, on fait pas comme ça, ton enfant il a besoin d'une petite traha, tu vas voir il va comprendre. Et vous vous dites non, moi je ne veux pas éduquer mes enfants avec des gifles, avec des claques, avec tout ça. Oui c'est difficile, oui parce que on fait plus de psychologie. Oui, avant, on ne se posait pas toutes ces questions. Et après, c'est la question de ça va être accepté ou pas, mais ça leur appartient.
Oui.
Vous, du moment que vous l'avez verbalisé, que vous l'avez dit, que vous avez posé une limite ici, et que vous êtes en alignement avec votre style éducatif, que vous soyez apprécié ou pas de vos parents, et ça, il faut leur dire. Dire, écoute, moi, j'attends pas l'approbation. Je suis pas en quête d'approbation sur mon style éducatif. Mais ça, ça présuppose d'être fort. Ça présuppose d'être bien ancré, Philippe.
Bon, à profiter de votre été pour apprendre à dire non. Alors, pas non systématiquement non plus.
Hein. Oui, non, bien sûr. Voilà. C'est vraiment se questionner, comme on l'a dit au départ. Est-ce que, qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Est-ce que c'est un besoin psychologique? D'accord? Et quand je dis oui à l'autre, est-ce que je me dis non à moi? Ou est-ce que je me dis aussi oui? Si je me dis aussi oui, ben on y va, au contraire.
Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette vidéo, Karima, en vert.
Oui, avec plaisir.
Magnifique couleur que le vert.
J'adore le vert.
Ouais.
Oui,
je sais. Le vert, c'est l'espoir.
Oui, absolument.
Entre autres. Donc sur la chaîne YouTube de Beurre FM, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir et à bientôt.
Une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Tous les mercredis de 19h à 20h, dans les informés sur Beurre FM, plongez au cœur de l'actualité avec Fassa Zeribi, l'émission qui vous donne la parole. Analyse, décryptage et échange en toute liberté d'expression. Adil Farkan et Karim Zeribi décortiquent les sujets qui font débat. Une heure d'éclairage pour comprendre, réagir et participer. Rendez-vous pour une dose d'information et de réflexion dans Fassa Zeribi, tous les mercredis de 19h à 20h, avec Adil Farkan et Karim Zeribi dans les informés. Seulement sur Beurre FM.
Bonsoir Karim Zeribi.
Bonsoir Adil Farkan.
Comment ça va?
Ça va, très bien.
Bonsoir Solal à la réalisation avec sa fameuse clochette. Bonsoir les amis auditeurs. Et nous sommes là, effectivement, en effet, pour une bonne partie du mois de juillet, mon cher Karim Zeribi.
Tout le mois de juillet.
Absolument, normalement, oui, on est. En tout cas, je peux vous assurer, certainement jusqu'au 25 juillet, ça oui, je peux l'assurer. C'est, sauf si changement de la direction générale. Hein, vous savez, parfois on a du mal à les suivre. Un petit clin d'œil, tiens. Adieu, ma. J'adore. J'aime bien ta clé. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Nous allons démarrer cette émission avec trois sujets qui ont retenu notre attention avec Karim Zeribi aujourd'hui, face à lui, justement. On reviendra sur la condamnation à 5 ans, la Cour d'appel d'Alger qui a confirmé donc hier la peine de prononcer contre Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars. Ça fait environ 3 500 euros. On en parlera avec notamment toutes ces personnalités, y compris François Béraud, qui sont montés au créneau pour une mesure de grâce. On en parlera avec Karim Zeribi. Nous parlerons aussi de ce contrôle au faciès. Tolérer les contrôles au faciès, oui. Certains vous disent, c'est accepté. Non mais attendez, on va en parler avec Karim Zeribi, parce que la France, elle a été condamnée par la CEDH. Il faut le rappeler, pour le contrôle d'identité au faciès. Ça date pas d'hier, pas d'avant-hier, Karim Zeribi. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que ça dure. Hein. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'effectivement, le contrôle au faciès, c'est hier. Hein. Le lobby. Vous avez certainement entendu parler des lobbyistes. Ou alors, vous savez, de ces fameux... associations qui se transforment parfois en lobbyistes. Eh bien, ils sont nombreux en France, nombreux, oui, parce que on compte à peu près environ 15 000 activités de lobbying qui ont été recensées. On en parle avec Karim Zeribi, parce que le sujet qu'on va aborder, c'est finalement la question qui se pose, est-ce un tabou ou un mythe? Parce que c'est vrai qu'en France, c'est encore un sujet qui interroge. 0153483000, chers amis. Eh bien, sachez-le, vous venez tout à l'heure vers 19h, 19h15, échanger avec Karim Zeribi pour échanger sur les trois sujets qu'on vient vous de soumettre. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Face à Zeribi, sur Beurre FM.
Karim Zeribi, je le disais tout à l'heure, avec Boualem Sansal qui continue de faire couler de l'encre. Condamné à 5 ans de prison en appel en Algérie, Boualem Sansal doit être libre, certains le disent, beaucoup d'ailleurs réclament sa liberté, dont François Béraud qui est monté au créneau pour appeler à une mesure de grâce. Alors Karim Zeribi, comme ça a fait couler de l'encre, Parlons-en avec vous, justement, à la fois la condamnation à 5 ans de prison, mais également aussi cette grâce.
Mais comme je l'ai souvent dit à cette antenne, l'Algérie est un pays indépendant, souverain, qui possède une justice, comme la France et comme tous les pays libres, souverains et indépendants. Cette justice, elle a statué sur le cas de Boualem Sainsal. Et quoi que l'on puisse penser de la justice algérienne, elle a fait tomber un verdict. Moi, j'ai souvent dit à cette antenne, moi, je suis pour la libération de Boualem Sainsal, parce que c'est un écrivain qui a 75 ans, qui est malade. Je pense que l'Algérie aurait mieux fait de ne pas le laisser rentrer sur son sol ou de l'expulser dès qu'il a voulu rentrer en Algérie, puisqu'il a bafoué la loi algérienne et qu'il a manqué quelque part à son statut de citoyen algérien en ne respectant pas la loi algérienne. Et c'est la loi algérienne dont il s'agit là. Donc c'est pas une détention arbitraire. Donc l'Algérie s'appuie sur des textes. Des textes juridiques qui font le code pénal algérien. Donc moi, je souhaite effectivement sa libération. La justice algérienne indépendante a statué. Nous aurons peut-être, à l'occasion du 5 juillet, une grâce présidentielle qui permettra à Boualem Sainsal et à d'autres, parce qu'il n'y a pas que Boualem Sainsal, peut attendre de la grâce présidentielle. Il y a des Algériens qui sont graciés chaque année par la voix du président de la République, Abdelmajid Tebboune, donc, qui décide de gracier des personnes qui sont détenues en Algérie. Voilà, donc je ne pense pas que les voix françaises qui s'élèvent en attaquant l'Algérie est rendu service à Boualem Sainsal au cours des dernières semaines et des derniers mois.
Ouais, vous pensez.
Je pense que les voix qui sont élevées pour attaquer l'Algérie avec des marques d'irrespect, voire de violence dans les mots, n'ont fait qu'enfoncer le cas de Boualem Sainsal. Demander la libération de Boualem Sainsal, on peut le comprendre, à l'évidence. Surtout quand on est français, mais on le fait par les voies de la diplomatie. On le fait avec une diplomatie discrète, efficace, basée sur le respect des deux nations, la France et l'Algérie. Or, c'est pas par ce chemin-là que les demandes ont été faites. Elles ont été faites souvent par la bouche du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont on sait effectivement qu'il entretient une sémantique, donc qui est une sémantique de conflit avec l'Algérie. Et donc, quand Bruno Retailleau demande la libération de Boualem Sainsal, il est évident que du côté de l'Algérie, ça passe mal. Quand c'est Jean-Noël Barrot, le président de la République, on est effectivement dans leur rôle.
Quoi. Ou François Bayrou qui réclame.
François Bayrou qui est le Premier ministre.
Qui mesure,
ça paraît normal. Et en plus, quand c'est Jean-Noël Barrot, François Bayrou ou Emmanuel Macron, c'est souvent fait et dit avec plus d'égard et plus de respect à l'égard de l'Algérie. Voilà, donc on n'a pas grand-chose à dire sur ce dossier, puisque dans l'attente de voir ce que le président de la République algérienne va décider au moment de la grâce annuelle donc du 5 juillet, est-ce qu'il intégrera Boualem Sainsal dans ce registre, oui ou non?
Bonne question.
Est-ce qu'il peut y avoir une décision de justice à la demande des avocats de Boualem Sainsal au cours des semaines qui viennent, prenant sa libération avec un régime de semi-liberté et peut-être une détention à domicile avec une résidence surveillée en raison de son état de santé, je ne sais pas non plus si c'est possible, je dois vous le dire. En tout cas, j'espère que ce sujet ne sera pas sans arrêt utilisé pour raviver les tensions entre la France et l'Algérie, puisque on a besoin de retrouver le chemin de l'apaisement, le chemin du respect. Quand la France n'expulse pas un ressortissant algérien qui a détourné des milliards ou qui met en danger l'État algérien parce qu'il est venu se cacher en France, l'Algérie, là aussi, est mise devant le fait accompli d'une décision de justice quand c'est le cas. Donc, vous savez, les décisions de justice, qu'elles soient françaises, qu'elles soient algériennes, elles peuvent ne pas plaire, elles peuvent déplaire aux deux pays, mais voilà, c'est la justice, qu'elle soit française ou algérienne, elle est indépendante dans ces pays, elle peut paraître disproportionnée, en décalage, parfois ne pas répondre aux attentes, mais en tout cas, ce qu'il faut faire toujours, c'est respecter ces deux pays et qu'ils se parlent d'une manière, je dirais, habituelle, c'est-à-dire les voix de la diplomatie, les voix des femmes et des hommes qui ont envie de que cette relation s'apaise et qu'elle reparte et qu'elle soit relancée. Que ça ne fait plaisir à personne, ces tensions et ces crispations entre la France et l'Algérie. Et ça n'est utile à personne, il faut le dire, parce que je pense que dans une relation de tension entre la France et l'Algérie, tant la France que l'Algérie sont perdants. Donc, et les peuples sont perdants, parce que les peuples sont habitués à travailler ensemble, à se rencontrer, à se déplacer. Et des Français viennent en Algérie, des Algériens viennent en France. Donc il y a du business, hein, il y a une relation économique. On l'a déjà dit à cette antenne, 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie. Ça a tendance à baisser ces dernières semaines, ces derniers mois par rapport aux tensions. Donc je pense que la France est perdante sur le plan économique, l'Algérie est perdante en matière de relations avec des partenaires potentiels. Voilà, donc même si l'Algérie ne dépend pas de la France et la France ne dépend pas de l'Algérie, il est préférable que cette relation soit apaisée et retrouve les voies d'une diplomatie, j'allais dire, respectueuse, d'une relation d'égal à égal entre ces deux grandes nations.
Karim Zeribi, on revient dans une poignée de minutes, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la redille.
Tous les mercredis de 19h à 20h, dans les informés sur Beurre FM, plongez au cœur de l'actualité avec Face à Zeribi, l'émission qui vous donne la parole. Analyse, décryptage et échange en toute liberté d'expression. Adil Farkan et Karim Zeribi décortiquent les sujets qui font débat. Une heure d'éclairage pour comprendre, réagir et participer. Rendez-vous pour une dose d'information et de réflexion dans Face à Zeribi, tous les mercredis de 19h à 20h, avec Adil Farkan et Karim Zeribi dans les informés. Seulement sur Beurre FM.
Et celles et ceux qui viennent de nous retrouver avec face à Karim Zeribi chaque mercredi, dans une poignée de minutes tout à l'heure vers 19h10, vous viendrez échanger avec Karim. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui dure maintenant depuis de longues années. Et je fais référence, Karim Zeribi, au contrôle d'identité discriminatoire. Alors, une pratique dénoncée par le défenseur des droits. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, hein, la CEDH, qui a donc condamné la France. Là, c'est inédit ce qui se passe, Karim Zeribi. Inédit. Pour contrôle d'identité au faciès. Et on peut même dire que c'est une première, Karim Zeribi. C'est à la fois inédit et c'est une première. Je vous donne la parole.
Les contrôles au faciès ont toujours existé, vous l'avez dit. Mais ils se sont amplifiés. Ils se sont amplifiés, c'est un rapport de la médiatrice de la République qui en atteste. Quand on a un faciès d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, on est quatre fois plus contrôlé que les autres. Quand on est noir, couleur de peau, on est six fois plus contrôlé que les autres. Et quand on est maghrébin avec une tenue qu'on qualifie de bandeirard, 7,8 fois plus contrôlé que les autres. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant que en 2016, il y a presque 10 ans, 16% des personnes qui étaient interrogées disaient se sentir victimes de contrôle au faciès. En 2025, 9 ans plus tard, c'est 26% des personnes qui prétendent avoir subi un contrôle au faciès. Et quand on parle des palpations, parce qu'il y a le contrôle au faciès, puis derrière il y a les palpations, quand les policiers décident de passer à la fouille pour voir si une personne détient sur elle des armes ou des produits stupéfiants, donc il y a une démarche de palpation. Là on est sur des chiffres qui sont exorbitants, puisque on avoisine les 20 fois plus de palpations pour les personnes au faciès maghrébin d'origine subsaharienne. C'est un véritable problème. Et vous savez comment je défends souvent la police nationale. Je défends la police nationale parce que ces femmes et ces hommes qui sont dans la police nationale aujourd'hui exercent un métier extrêmement difficile. Et comme dans toute corporation, il y a des gens bien puis il y a des gens moins bien. Comme dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, des gens qui ne respectent pas les codes de déontologie. Et je pense que c'est peut-être ceux-là qui abusent de leurs prérogatives et de leur pouvoir. Et ils abusent de leur pouvoir en contrôlant un jeune qui serait au volant d'une voiture récente, en pensant que ce jeune, parce qu'il est d'origine maghrébine d'Afrique subsaharienne, ne peut pas avoir une jolie voiture, une voiture récente. 60. Et sous-entendu, il ne peut pas travailler, être honnête, pour se payer cette voiture. Dans les gares, énormément de jeunes sont contrôlés aussi par rapport à une tenue vestimentaire, le survêtement, qui est signe, de, encore une fois, d'une tenue qui est qualifiée à défaut et à tort. Donc d'une tenue de jeune capable de ne pas avoir un comportement très respectueux avec les règles. Et ça fracture notre société. Ça fracture notre société parce que ces discriminations faciès, on les retrouve dans l'accès à l'emploi. On les retrouve dans l'accès au logement. En fait, on voit bien que notre pays, finalement, avec sa diversité de patronyme, sa diversité de faciès, a du mal à créer de la cohésion. Il a du mal à créer de la cohésion parce qu'il exclut une partie de la population de fait. Moi, que l'on aille contrôler des gens qui sont pris sur le fait, à l'évidence, c'est le travail des fonctionnaires de police, des forces de l'ordre. Si une caméra de vidéosurveillance indique que telle ou telle personne, sans distinction de couleur de peau, commet un vol, une agression, il est normal que la police fasse évidemment son travail, parce qu'elle est là d'abord pour servir et protéger la police nationale. C'est quand même, il faut le dire, l'adage de la police, la promesse de la police. Mais lorsque vous contrôlez un jeune parce qu'il est jeune, un jeune parce qu'il est noir, un jeune parce qu'il a une gueule d'arabe, là, c'est plus servir et protéger. Là, je pense que ça provoque des fractures parce que derrière, peut-être que d'un jeune honnête, vous allez en faire quelqu'un de frustré. Quelqu'un de frustré qui va en vouloir à la terre entière. En pensant que finalement, mais il n'a pas sa place dans la société. En pensant que finalement, mais on ne le voit que sous le sceau potentiel d'un délinquant.
Et par là,
en pensant que je ne suis pas français finalement. Donc on me considère comme un étranger, dangereux, irrespectueux des règles. C'est le danger de l'essentialisation. C'est le danger de généraliser. Et sur quelque sujet que ce soit. Quelque sujet que ce soit, quand on dit les fonctionnaires sont feignants, jamais je n'abonderai dans ces généralisations. Il y a des fonctionnaires feignants, puis il y a des fonctionnaires qui font un travail remarquable, extrêmement difficile, dont nous avons besoin, dans les hôpitaux, la police nationale, j'en parlais, l'éducation nationale, ce sont les sapeurs-pompiers, ce sont des femmes et des hommes dont nous avons besoin, dont nous devons saluer le travail. Et parmi ceux-là, il y a des feignants, à l'évidence. Mais dire les fonctionnaires sont des feignants est inacceptable. Les juifs sont des radins. Vous savez, les juifs, il y a une expression qui dit, les juifs, ils sont avares. Non, arrêtez, il faut qu'on arrête. Les juifs, il y a de tout, comme pour les musulmans, comme pour les catholiques, comme pour les bouddhistes, comme pour les athées. Il y a des radins, il y a des gens généreux, il y a des gens formidables, il y a des personnes détestables, mais comme partout. Moi, ma grand-mère disait toujours, vous savez ce que disent les grands-mères, il faut parfois le ressortir avec des mots simples et des phrases simples, il y a des bons et des mauvais partout. Donc, je pense qu'il faut qu'on ancre ça dans la tête de tout le monde. Il y a des bons et des mauvais partout. Donc chez les fonctionnaires de police, il y a des bons. Mais il y a aussi, effectivement, des gens qui abusent de leur pouvoir, de leur position, de leur tenue, de leur statut, de leur assermentation, parfois se comportent de manière odieuse. Le tutoiement, par exemple. Le tutoiement quand vous contrôlez quelqu'un. Mais c'est insupportable. Je vois pas pourquoi on tutoierait un jeune ou un moins jeune lorsqu'on le contrôle. Et souvent, ces fonctionnaires de police-là, dont on parle, cette minorité, je veux croire que c'est une minorité, qui abuse de son statut. Cette minorité, elle tutoie les jeunes, parce qu'il est jeune. Oh, viens là,
c'est ce que regrette du
qu'est-ce que tu fais, qui tu es, où tu vas, comment tu te prends pour qui. Mais il faut qu'on arrête avec ça. Si on veut qu'un jeune respecte la police, il faut que la police respecte un jeune. Monsieur, vous allez où? D'ailleurs, avec les gendarmes, le contrôle se fait différemment. Les gendarmes sont des militaires de formation. Il y a une forme de rigueur et d'exigence qu'on retrouve peut-être moins dans la police nationale. Donc la police nationale, c'est plus des gens de la société civile dans leur formation. Alors que les gendarmes, c'est une formation militaire rigoureuse, exigeante. Bonsoir monsieur, contrôle des papiers s'il vous plaît. Vous éteignez le moteur, le contact. Donc voilà, c'est poli. Celui qui ne respecte pas un contrôle lorsqu'il est effectué comme ça, effectivement, je peux comprendre que la police, ensuite, passe à l'étape suivante en se disant comment je lui demande de me présenter ses papiers d'identité poliment, correctement et il ne s'exécute pas.
Karim, je vous interromps, je suis désolé parce qu'il faut qu'on lance la pause. Et je vous laisse finir si vous voulez bien, tout de suite après. Sinon, on est interrompu de facto, là, pour le coup, par la régie pub. Je lance la pub.
On s'est un peu oublié, alors, à la réalisation, parce que là, vous m'avez pris de court, là.
Je suis désolé, mais comme le réalisateur, depuis tout à l'heure, il fait des signes, ça fait trois fois qu'il me fait le signe, et si je le lance pas, c'est vous-même, on va vous interrompre. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la redit.
Tous les mercredis de 19h à 20h, dans les informés sur Beurre FM, plongez au cœur de l'actualité avec Fassa Zeribi, l'émission qui vous donne la parole. Analyse, décryptage et échange en toute liberté d'expression. Anil Farkan et Karim Zeribi décortiquent les sujets qui font débat. Une heure d'éclairage pour comprendre, réagir.